est certaine pour ce qui naît et certaine la renaissance pour ce qui meurt. Devant l'inéluctable, pourquoi s'apitoyer ? Ce verset a été récité le matin même durant la prière du 30 janvier 1948, jour où Gandhi fut assassiné par un extrémiste hindou. Mohandas Gandhi naît le 2 octobre 1969 à Porbandar. Il est le quatrième enfant de la famille Gandhi et appartient à la caste qui doit traditionnellement pratiquer des emplois modestes. En effet, le patronyme Gandhi signifie « marchand d'épices ». Cependant, la faveur du prince a permis aux Gandhi d'obtenir le titre de premier ministre de Porbandar, ce qui leur donne une certaine aisance. Gandhi vit une enfance paisible et heureuse. Sa mère est une femme pieuse, simple et avisée. De son père, l'enfant a reçu le sens du devoir et de l'honnêteté. Ces deux exemples ont lentement façonné l'esprit et le cœur du petit Gandhi. Sur les conseils d'un brahmane, Gandhi projette de poursuivre ses études de droit à Londres, ce qui lui permettrait d'exercer un métier lucratif et brillant. Dans un premier temps, il se laisse séduire par le brio de la société occidentale. Puis, il prend conscience du côté superficiel de cette vie mondaine et y renonce du jour au lendemain. Au bout de 3 ans, il obtient son diplôme d'avocat et revient en Inde. À 24 ans, il accepte de se rendre en Afrique du Sud afin de défendre les intérêts d'une entreprise lors d'un procès. C'est là qu'il vit ses premières luttes et devient populaire. Dès son retour en Inde, un an plus tard, Gandhi se met à lutter pour la libération de son pays du joug de l'Angleterre et plus globalement de l'emprise de l'Occident. Il renoue avec l'Inde profonde et pauvre et sa première grande cause est la défense des paysans déshérités du Bihar qui travaillent pour des maîtres britanniques. Il se rend aussi à Ahmadabad où il inaugure le jeûne comme moyen de pression sociale et politique. En 1919, il a 50 ans, il organise un mouvement général de grève et de silence qui aurait été un succès si le général anglais Dyer n'avait pas fait abattre 300 à 400 personnes dans la foule pour l'exemple. Pour relancer l'artisanat local, il invite les Indiens à filer eux-mêmes leurs étoffes. En 1930, il entreprend la célèbre marche du sel qui symbolise le refus de la taxation anglaise sur le sel. Homme politique influent, Gandhi ne peut pas être rigoureusement défini comme tel. Sa force et son originalité viennent de cette combinaison entre le politique, le religieux et un travail acharné sur lui-même. Pour lui, la politique se fait par une vie concrète et humble qui commence par soi-même. Politique et religion restent indissociables. Il a toujours voulu améliorer le sort des intouchables. Sans hésiter, il a accueilli dans son ashram une famille de cette caste. Il a aussi partagé les travaux qui leur sont réservés en disant « L'humilité constitue la connaissance et tout le reste n'est qu'ignorance. » C'est dans la simplicité, dans la pureté du cœur qu'il reconnaît la présence de Dieu, d'abord comme une voix intérieure, puis comme une lumière, une douceur et un amour pénétrant au plus profond de l'être. À sa façon, il a admiré et aimé le Christ, incarnation de l'amour, et il s'est toujours laissé saisir par son enseignement, surtout le sermon sur la montagne. En visite à Rome, à la chapelle Sistine, il s'arrête devant le Christ en croix et ne peut retenir ses larmes. Il avoue, devant autant d'amour, on ne peut s'empêcher d'être ému jusqu'aux larmes. Gandhi a essayé d'établir le principe de l'amour dans tous les domaines de la vie et la non-violence. Il l'a défini ainsi. Le principe de la non-violence est violé par toute pensée mauvaise, par toute hâte excessive, par le mensonge, la haine, le fait de souhaiter du mal à quelconque. On le viole aussi lorsque l'on garde pour soi ce dont le monde a besoin. La non-violence implique douceur, compassion, humilité, maîtrise. Elle a une portée universelle et confère à l'homme toute sa dignité. « On défend la vérité, dit-il, non en faisant souffrir son adversaire, mais en souffrant soi-même. »